Hors champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors champ, ce soir, rediffusion de l'émission que nous avions faite le 24 mai 2010 avec Ronit Elkabetz, dont nous avons appris avec stupeur ce matin la disparition. Donc cet entretien ne parle pas et pour cause du dernier film de Ronit qu'elle a fait avec son frère Shlomi, un film que vous pouvez, que vous devez aller voir, qui s'intitule « Le procès de Viviane Amsalem ». Hors champ, Ronny Elkabetz. Hors champ. Hors champ, bonsoir à toutes et à tous, un hors champ un peu exceptionnel consacré à Ronit Elkabetz qui, comme vous le savez, a obtenu samedi dernier le prix France Culture du cinéma 2011. Ronit Elkabetz est à la fois actrice et a joué avec les plus grands comme André Téchiné, la fille du RER, les plus grands cinéastes israéliens comme Karen Yedaya pour Jaffa. Mais elle est aussi réalisatrice de « Prendre femme » et « Les sept jours », son dernier film co-signé avec son frère Shlomi, portrait d'une femme incandescente. Ronny Elkabetz, on vous connaît bien en France et on vous aime beaucoup depuis longtemps parce que vous avez tourné dans plusieurs films qui nous ont laissé un souvenir obsédant. Je me souviens de votre personnage dans Alila de Amos Gitaï. Je me souviens aussi de Mon Trésor, ce film absolument extraordinaire où vous interprétiez le rôle de la femme prostituée, la maman prostituée. Il y a votre film que vous avez co-réalisé avec votre frère, sur lequel on va revenir aussi tout à l'heure. La première question que je voulais vous poser, c'est dans ce pays où vous avez commencé à vivre, si j'ai bien compris, dans la région de Beersheva, il y avait un cinéma ?
À Beersheva, non. Et non, Beersheva, pas du tout. C'est le désert, hein, complètement. Et nous, la famille, on est déménagé de Beersheva au nord d'Israël, à Haïfa. Et quand je me suis grandie, je déménageais encore au centre, à Tel Aviv. Et c'est là que ça commence, en effet, à Tel Aviv. Et autour de Tel Aviv, il se passe pas beaucoup de choses par rapport au cinéma.
Quel est le premier film que vous ayez vu ?
Je crois que le premier film vraiment qui m'a marqué, c'est Le Portier de la Nuit, je crois, avec voilà, Cavani.
Liliana Cavani.
Ok, c'était avec Charlotte Rampling. J'avais 18 ans et c'est le premier film que je me souviens qui rentre comme ça dans ma vie. Ça me met dans un état de choc et longtemps après, je me trouve un moment avec ce désir de faire du cinéma et ce cinéma. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça commence avec un désir physique très 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 fort qui vient de cette image de la femme en face de cet homme fermé, emprisonné dans cette maison. Mais en tout cas, la passion entre guillemets qui se passe dans ce film, le prison, l'histoire, la théâtralité de l'histoire. Oh là là, je me souviens trop bien quelques scènes de là-bas. Ouais.
C'est un film qui a fait scandale en France et j'imagine que le voir en Israël, puisque le sujet du film, c'est quand même les rapports amoureux entre un tortionnaire nazi et une juive qui est dans un camp de concentration, ça a dû aussi faire des vagues là-bas en Israël.
Quand je l'ai vu, c'était déjà un film qui a passé plusieurs années. Je l'ai vu à l'armée, en effet. Et je n'ai pas vécu vraiment le bruit qu'il a fait à l'époque quand il est sorti.
Alors, vous parlez de votre armée, Ronny Elkabetz. Évidemment, en Israël, tout le monde fait l'armée, les garçons comme les filles. Et c'est d'ailleurs très étrange de voir en Israël que les filles en tenue militaire, avec leurs revolvers ou leurs mitraillettes au poing, viennent dans les bistrots, dans les cafés, dans les restaurants, comme si de rien n'était. Comment avez-vous vécu cette période de l'armée ?
Oui, la période de l'armée était assez difficile pour moi. Je l'ai vécue comme une expérience que je voulais absolument terminer au plus vite possible. C'est passé 2 ans. J'avais un métier de météorologique. Alors j'étais comme ça en arrière, travaillais avec le pilote, mais quand même la frustration féminine dans l'armée, je me souviens comme une période difficile. C'était bien longtemps, mais il n'y a rien à dire. Hein. L'armée, c'est un monde qui convient aux hommes, mais même ça, même aux hommes, il faut... Je veux dire, si on pouvait arrêter avec cet héritage, ça fait partie de malheureusement de notre parcours israélien. Et on termine l'école et on commence l'armée. Et on oublie tout ce que les jeunes vivent à l'étranger. Ils prennent leur temps, ils voyagent, mais en Israël, on peut pas nous permettre de vivre ça.
Parlons de votre langue. Vous parlez admirablement le français. Vous êtes d'origine juive séfarade. Vos parents étaient d'origine marocaine et sont allés s'installer en Israël. Et à l'intérieur de votre famille, je crois que votre père parlait hébreu, votre grand-mère parlait l'arabe, votre mère parlait français, mais pas vous.
Non, moi je me suis grandie avec ma grand-mère qui parlait que l'arabe. Mon père a refusé toute sa vie à parler français parce que il s'est considéré comme un sioniste. Il est arrivé dans la nouvelle pays, il voulait apprendre l'hébreu, parler l'hébreu. Il connaît bien l'hébreu, il a enseigné l'hébreu de la Bible en effet en Maroc. Il voulait parler hébreu. Ma mère, c'était difficile pour elle, ça lui a pris du temps. Et quand je me trouve avec ce désir d'arriver en France, je me trouve pas avec cette langue, la langue de mes parents. Et là, je me trouve en France, incapable de parler même pas un mot. Et en plus, je suis arrivée ici avec ce rêve d'incarner ma vie comme actrice aussi. C'est-à-dire continuer ici, en France, ce que je déjà commencé en Israël. Et je ne pouvais pas, parce que voilà la force de notre métier, c'est les paroles, le mot, la possibilité de parler. Et je ne pouvais pas parler. Mais quand même, c'est un grand, je crois, grand cadeau que je me suis offert à moi-même de recommencer ma vie à zéro. Aussi, y inclut l'idée que je ne parle pas la langue. Et ça m'a permis quand même de grandir doucement, revenir un peu à moi-même. C'était quand même en Israël une enfance un peu... En tout cas, je me suis revenue un petit peu à l'enfance en revenant à une gamine qui ne parle pas une langue, n'importe quelle langue. Il fallait que j'apprenne à marcher, à avoir le désir de parler, de dire je veux ça ou je veux ça. Et du coup, j'ai commencé à apprendre sur moi-même à travers mes yeux et pas à travers les yeux des autres. Pendant la première année, je ne parlais pas du tout, j'avais peur d'ouvrir ma bouche. Et quand même, je veux jouer ici. Je commençais chez Ariel Minouchkine, nettoyer. Et ça m'a permis, doucement à avancer et apprendre.
On comprend mieux pourquoi, Roni Elkabetz, vous êtes une actrice aux multiples visages, aux multiples destins et aux multiples métamorphoses. Parce qu'effectivement, cette langue française que vous avez apprise tard, ce côté un peu sauvageonne de votre enfance et ce côté un peu mutique vont littéralement exploser à l'écran. Et quand vous êtes arrivée à Paris, vous avez fait quelque chose, je trouve, qui est très initiatique et qui permet de comprendre là aussi votre fonction d'actrice mais aussi de réalisatrice. Vous êtes arrivée à la cartoucherie de Vincennes chez Ariane Mouchkine, qui est un lieu très particulier dans le monde, qui est une sorte d'atelier où tout le monde fait tout. Donc vous avez fait la cuisine et le ménage, et ça vous enchantait.
Oui, je me souviens de cette époque parce qu'on m'a appelé du théâtre en Israël. Je me souviens, on m'a proposé, viens faire le Cléopâtre, viens faire Lady Macbeth. J'ai dit non, j'essuie des verres et je nettoie et je vais faire les bénis, des petits gâteaux comme ça et j'apprends.
Comment a commencé votre rôle d'actrice en Israël? Un peu par hasard, je crois, mais ça a été une révélation.
Je raconte toujours l'histoire comme ça en Israël. C'est drôle parce qu'on m'a appelée pour une audition. Et moi, je suis arrivée, j'avais pensé qu'il s'agit d'une audition pour une publicité pour le cinéma. Ils ont commencé à me parler d'une grande histoire d'amour entre le grand rabbin avec une femme qui... considérée comme un Lilith. Lilith, c'est une femme interdite de la Bible pour les hommes parce qu'elle a des magiques, des forces magiques. Et je regardais comme ça le metteur en scène et je demandais pourquoi ils travaillent ce sujet pour la publicité. Moi qui viens d'une famille très religieuse, ça me paraît un peu bizarre. Alors ils m'ont dit, bon, alors réveille-toi, ma fille, c'est pas une publicité, c'est un feature. Et moi, je demandais qu'est-ce que c'est un feature. Je ne savais pas même qu'est-ce que c'est un feature. On m'a dit, c'est un long métrage. J'ai dit, ok. Il m'a dit, ok, bon, alors vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. Prenez les papiers, revenez demain. Bon, je suis partie à la maison, j'ai vu comme ça les papiers. Je crois que c'est honteux à le dire. C'est vrai, ça fait partie de mon enfance. Mais c'est la première fois, je crois, que j'ai vu des pages comme ça et A4 comme ça. Voilà, cette grandeur de quatre écritures. Et j'ai commencé à lire ces trois pages et j'ai senti d'une sensation quelque chose comme cette femme, je la connais, qu'est-ce que c'est? Et le lendemain, je me suis revenue. Il y avait une liste énorme. Parce qu'il a cherché ce metteur en scène pendant, je crois, 6 mois. On m'a dit 6 mois, l'actrice en Israël, l'actrice principale. C'était dans le film L'élu. Et il n'a pas trouvé. Et j'étais la dernière. Et je suis tremblée. Tout le corps tremblait complètement. Je me suis assise à côté. Et j'ai pris comme ça mes genoux, arrêté comme ça de trembler. Et quand ils m'ont appelée et je suis rentrée dans la salle, Il m'est arrivé un truc que voilà, c'est ça que je raconte toujours. C'est comme j'utilise des grands mots, mais c'est la vérité. Je sentis comme c'est comme la divine rentre en moi. Il y a une silence, une telle silence qui est rentrée dans mon âme, dans mon corps. Je fermais la porte derrière moi et j'étais un autre. J'étais une autre. Et voilà, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Et j'ai pris mes affaires et je suis partie. Et c'est comme j'étais pas là. Et je suis partie dans la rue. C'était en novembre ce mois-ci. Il pleuvait. Et je suis allée dormir tout de suite parce que j'ai senti que c'était trop fort. Je suis dormie jusqu'à le matin. Normalement, j'ai tellement du mal à dormir que c'est la seule nuit, je crois, où je dormis un tel heure. Et le lendemain, à 7 heures du matin, on m'a appelée, c'est très tôt, pour me dire... bonne chance, voilà, Mazal Tov, c'est à toi. Et toute ma vie a renversé complètement. C'est, voilà, l'histoire.
Comment, justement, vous définiriez le rôle d'actrice? Parce que vous avez interprété des rôles si différents. Vous avez interprété le rôle d'une mère prostituée complètement perdue, où vous avez accepté d'être totalement défigurée, vous avez accepté de grossir, d'avoir les chairs flétries, alors vous êtes une sublime jeune femme. Vous avez accepté d'être une policière hystérique dans le film de Gitaï, Alila. On parlera de votre propre interprétation dans votre propre film, Prendre femme. Dans la visite de la fanfare, vous êtes une jeune femme qui ressemblait beaucoup à ce que vous êtes d'ailleurs dans la vie, un peu mélancolique et paumée. Le rôle d'actrice, c'est être conduite par un metteur en scène ou c'est s'approprier véritablement un personnage pour vous, Roni Elkabetz?
Moi, je sais une chose. Je suis attirée, vraiment attirée, par les rôles que je peux parler de moi-même, mais d'un endroit le plus profond. Parce que sinon, pour moi, je me sens que ça ne sert à rien. Quand je commence à travailler un rôle, je cherche tellement loin en moi-même, et ça va au loin finalement. Ça vient de moi. J'ai jamais appris le jeu, hein, la formation d'actrice, je l'ai jamais eu. Mais je le sens comme ça, naturellement. Je sens que, pour moi, il y a une nécessité. Je ne peux pas jouer pour jouer. C'est-à-dire, il y a beaucoup de la joie aussi. Ça m'a sauvé de la vie, ma vie, hein, cette chemin. Même si je touche la plus grande profondeur de souffrance existe en moi-même, je réjouis. Et pour moi, c'est si tu as des choses à dire et tu arrives à le dire à travers des autres personnages, voilà, si tu peux arriver à faire ce parcours que j'appelle comme un branchement. Moi, j'ai dit toujours pour moi que les grands acteurs, c'est des médiums. Comme les gens ordinaires, entre guillemets, n'arrivent pas à sortir d'eux-mêmes des sentiments vraiment profonds qui se trouvent à nous tous. Les acteurs, ils ont cette capacité à vraiment aller très 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 loin, à un endroit où toutes les réponses se trouvent. C'est tout. Pour moi, c'est pour ça que je parle d'un grand grand cadeau, parce que les réponses se trouvent là-bas. Mais il faut travailler très 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 dur pour trouver ce lien de branchement. Quand je dis se brancher, c'est-à-dire de se contacter avec le savoir, avec la connaissance universelle qui est là depuis toujours. C'est ça.
Prenons le film admirable « Mon trésor » de Keren Yegada. Vous interprétez donc le rôle de cette femme qui se prostitue pour pouvoir essayer de survivre, même pas de vivre, et qui vit avec sa fille qui a 16-17 ans dans une sorte de taudis. Là, vous êtes véritablement la lie de l'humanité. Vous êtes le déchet dont plus personne ne veut. Vous portez sur votre visage et dans votre propre corps toute la lourdeur, toute la déchéance et en même temps toute la résistance du monde. Comment avez-vous réussi à faire en sorte que nous, spectateurs, nous puissions nous identifier à vous? Et comment avez-vous réussi à faire passer autant d'humanité dans ce rôle absolument extraordinaire?
Merci. Et c'est très simple. C'est parce que je vis vraiment les sentiments que j'ai pour les êtres humains. C'est-à-dire, je m'identifie et je sais me mettre aussi en distance des personnages. Mais au moment où je travaille, je m'identifie. Mon cœur va vraiment avec ces gens que j'incarne, c'est-à-dire l'humanité, leur cœur, à travers de moi-même, pas à travers des livres, pas à travers des femmes que je regarde, pas à travers de la rue. C'est quelque chose, je me demande, tu vois, la souffrance est toujours été là, et encore aujourd'hui plus que jamais peut-être. Et voilà, les gens, la complicité des êtres humains, ça m'intéresse énormément, c'est-à-dire comment on s'est construit à l'intérieur. Je demande énormément des questions, et je réponds, mais je réponds vraiment, c'est-à-dire je prends mon temps à répondre. Alors par rapport à cette femme par exemple, et je me souviens qu'Karen Yedaya, elle m'a demandé de rencontrer une femme, une prostituée, et j'ai dit d'accord, oui, j'aimerais bien, parce que j'aimerais bien de connaître toutes ces femmes qui souffrent tellement dans cette vie, mais j'avais pas senti d'aller vraiment faire un recherche. Et je connus une femme, je suis allée chez elle deux fois, je la regardais comme ça très peu de temps, et d'ailleurs c'est presque, je peux dire, une amie aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un que je m'occupe depuis, en tout cas que je le vois une fois, deux fois par semaine, et que je m'occupe un peu. Et voilà, je me suis contactée à sa douleur à elle. Après, c'est quand même le chemin d'un travail, il est mystérieux. Même si j'arrête pas de travailler, le travail est tellement dur, ça, parfois, ça fut nuit et jour pendant des mois et des mois. Ce rôle, je l'ai préparé quand même pendant un an. Et j'ai compris comment, je l'ai vu chez elle, à la maison. J'avais pas besoin plus que 10 minutes pour voir comment elle vit. Comment elle vit, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai arrêté cette année de faire du sport, j'ai arrêté de maquiller, de me regarder comme une belle femme qui peut séduire. Mais si la séduction est là, c'est pour gagner de l'argent, pour vivre, pour survivre, pour manger. Et j'ai appris beaucoup, en tout cas, avec ce parcours. C'est quelque chose d'extraordinaire, ce que j'ai appris. Mais ça reste toujours quand même à la fin un parcours personnel finalement. Comme enfant, il faut dire, peut-être ça m'aide aussi parce que mon expérience comme enfant, j'ai passé beaucoup d'années à regarder les choses, à ne pas faire partie, à ne pas jouer avec les autres. J'étais trop timide, je crois, trop fermée, trop peur de quelque chose d'un côté, mais trop audacieux aussi. Pas trop, mais audacieux de l'autre côté. C'est-à-dire, j'ai senti toujours un peu différente, et ça a commencé dans la maternelle, après à l'école, et j'ai pas arrêté d'observer. Et je crois que ça sort, quoi. Alors, tout ça, ça ajoute avec tout le savoir, c'est là, quoi, c'est là, et à servir les choses.
Parler des prostituées en Israël, ce n'est pas un sujet très facile à aborder. De la même manière que dans votre film que vous avez signé et co-signé avec votre frère, Prendre femme, parler du destin d'une femme qui, après 20 ans de mariage, veut quitter son mari, ça n'est pas non plus facile d'aborder ce sujet-là en Israël. Travailler avec Gitaï pour Alila, et poursuivre le chemin qu'il prend depuis longtemps, notamment avec son dernier film qui a valu bien des problèmes en Israël, Disengagement, ça n'est pas forcément facile. Est-ce que vous faites partie de cette mouvance, de cette jeune génération d'Israéliens qui vous sentez engagé politiquement ?
Absolument, oui. Je ne me vois pas autrement. Mais ce que je fais, c'est avant tout que je m'engage à travers l'art, à travers mon travail. Et après, le quotidien me demande une autre manière d'engagement, et je le fais. C'est vrai que c'est bizarre, parce que pour jouer, ça fait partie aussi d'un monde qu'on peut faire beaucoup de choses aussi pour jouer, quoi. Mais même si j'ai un rôle, par exemple ce rôle dans La Visite de Fanfare, on m'a proposé un rôle qui peut me proposer une sorte de poésie qui engage de la joie, de la simplicité, quelque chose. Mais en même temps, c'est toujours, ça reste quand même un poids que je porte en moi. Et ça fait partie peut-être de mon caractère, de mon besoin de parler à travers n'importe quel rôle, parler des choses qui m'importent. Et par rapport en Israël, il faut absolument faire les choses d'une manière à l'autre. Il faut faire, il faut parler, il faut agir, il faut vivre ce qu'on vit de toute façon. Alors, c'est où on ignore les choses et on ferme les yeux et on attend à rien, où on fait partie d'un mouvement qui essaye de bouger un peu les choses. J'ai pas perdu l'innocence à penser que l'art peut changer, absolument. L'art peut changer. Je vois ça. J'ai le preuve à voir et rencontrer des gens dans le monde entier et en Israël qui me parlent d'un changement qu'ils vivent à travers des films comme ça que je présente et en Israël et dans le monde. C'est-à-dire que les gens restent attentifs et réveillés devant une création qui parle de la vérité, de l'humanité, des choses, quoi, de nous.
Good afternoon.
Good afternoon to you too.
I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center.
Excuse me?
We've been invited by the local cultural department to play at the initiation ceremony of the Arab Culture Center.
What was it? Where are you from?
We are from Egypt.
Egypt?
Masri?
Yes. We are the Alexandria Ceremonial Orchestra.
There is no Arab center here.
No Arab culture center.
No.
Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all.
Jahannam.
Dans La visite de la fanfare, un film de Eran Kolirin, vous interprétez le personnage principal, c'est-à-dire une jeune femme de votre âge qui vit dans une ville d'ailleurs aux confins du désert, comme lors de votre enfance à Beersheba, et qui voit débarquer à sa grande stupéfaction un orchestre, une fanfare qui vient d'Alexandrie et qui va nouer une relation avec un monsieur d'un certain âge qui fait partie de la fanfare. Et à travers finalement ce film qui est à la fois poétique, qui est à la fois métaphorique, symbolique et en même temps bien réel, parce qu'on voit bien comment cet orchestre, cette fanfare égyptienne défraie la chronique dans cette espèce de bourgade israélienne où personne ne comprend ce qu'ils viennent faire, eh bien on voit bien qu'à travers votre personnage, il y a une sorte de résistance à l'oppression qu'ont les Israéliens sur les Arabes et l'image qu'ils s'en font. En tout cas, c'est comme ça aussi que j'ai vu le film.
Intéressant. Et pour moi, ce film, c'est vraiment cette femme qui se trouve au milieu de nulle part ailleurs et qui attend de quelque chose. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus ravissant et extraordinaire qu'à un moment donné, il arrive un troupe égyptien avec leur tenue comme ça, le ciel traversé comme ça la ville. Elle est, je crois, Dina, elle est complètement fascinée. Elle est libre de complètement de tout ce qu'on peut imaginer par rapport aux gens en Israël qui sont bien nourris du passé ou bien même du futur qui n'est pas encore là, de la situation, de graves situations. Elle est libre, cette femme, elle est libre. Alors elle est là et elle commence à vivre le premier seconde, le rêve d'une belle histoire, d'une histoire d'amour avec un homme qui soit un arabe égyptien ou bien je ne sais pas qui. Et voilà, et le critique de film, c'est là, c'est tellement simple. Un homme, une femme, des êtres humains se rencontrent. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Alors, il est arabe. Et alors, il a des beaux yeux. C'est-à-dire, on peut manger, on peut dire quelque chose, on peut échanger quelques mots, on peut passer le temps, on peut vivre un instant. Voilà ce qui est important. Vivre l'instant. Et ce film vit l'instant. Et c'est, il nous rappelle. Pour moi, c'est un film qui vraiment qui rappelle ce que j'appelle la question humaine, vraiment, c'est la simplicité, l'humanité, voilà, et la possibilité de vivre ce que l'univers nous envoie chaque seconde de la journée. Et tellement on critique tellement, on complique tellement les choses tout le temps, qu'on vit pas ici et maintenant. On vit quelque chose du passé, on vit quelque chose de demain, on vit les problèmes des autres, on vit les problèmes qui n'existaient pas. On vit tout, mais pas notre vie qui se passe maintenant, là. Et voilà, c'est simple. On est là à vivre ce qui se passe. Bon, le lendemain, il part, dommage, mais on a eu 24 heures à vivre quelque chose et peut-être il y aura d'autres choses après. C'est ça qui est tellement poétique et beau pour moi en ce film. Quand j'ai lu le scénario, j'étais vraiment fascinée par l'idée que voilà, un homme arabe, une femme israélienne, ok, d'accord, se rencontrent et on est là à parler un petit peu de... Ça peut être quelque chose, elle lui demande, hein. C'est-à-dire elle s'intéresse à des choses tellement ordinaires, c'est-à-dire elle s'intéresse à des rêves. Elle tout de suite, elle peut s'imaginer elle-même à côté de lui, comme ça traversant la ville avec cet uniforme. Elle adore, c'est-à-dire elle est pas là pour compliquer les choses. Alors c'est un regard qui manque absolument chez les gens et c'est dans le festival dans le monde et même en Israël, on m'a dit oh là là, Où on peut trouver aussi des dinas, des femmes comme ça, qui vivent leur force avec une telle simplicité et sans jouer sur des choses qu'on connaît. Est-ce qu'il existe encore des dinas comme ça ?
You like Arab movies, Tawfiq? Omar Sharif, Fatin Hamama. You know, when I was young, we used to have here on television Arab movies, Egyptian movies. And every Friday at noon, all the street in Israel was empty because Arab movie every Friday afternoon. And me and my mother and my sister, we sit and we see Egyptian movie and we cry our eyes out. We were all in love with Omar Sharif. We were all in love with love. And I think that now, this night, we could live this again, you know? Big love in big Arabic words. Ya Habibi, Ya Umri, Ya Rohi. But I fuck it all up, like everything else. My life, Arab movie.
Dina, my wife you have asked about before, she died because of me. We had a son, a bright and beautiful son. He made some mistakes. I was hard with him. I didn't understand. He was gentle, fragile, like her. I didn't understand him. He took his life. It broke her heart.
J'aimerais bien qu'on revienne sur votre film que vous avez fait avec votre frère, Prendre femme, qui pour nous a eu un écho absolument bouleversant. Il nous a fascinés, ce film. Il nous a bouleversés. Il a traversé nos cœurs et nos âmes. Parce que pour la première fois, on voyait dans Prendre femme, que vous avez donc co-signé avec Shlomi Elkabetz, votre propre frère, vous avez décidé, en quelque sorte, de raconter l'histoire de votre propre mère et en même temps, vous faites œuvre de cinéaste. Je voudrais que vous parliez de ce premier plan de Prendre femme, qui est un plan où on vous voit. Vous êtes complètement encerclé par des hommes. On pense que ce sont des frères, des cousins, enfin les hommes de la famille, qui veulent absolument que vous ne divorciez pas, puisque telle est la question que vous vous posez, vous, en tant que personnage principal de ce film, et vous, vous résistez. Et on pense au plus grand des cinémas, on pense à Cassavetes, on pense à Gina Rowlands. Comment avez-vous trouvé la force de faire ce film et de faire ce plan d'ouverture ?
Déjà, faire le film, c'est... cette histoire, ce film, cette vision, elle est là depuis toujours avec moi. Alors j'ai attendu le moment pour présenter. Je me souviens quand j'ai demandé mon frère de réunir avec moi pour qu'on fasse le film ensemble. Je suis venue envers lui pour lui dire voilà, j'ai une idée, j'ai une histoire, je veux faire le film avec toi. Et déjà, j'avais le premier plan. Le premier plan n'était pas ce plan, c'était d'une femme qui doit se réveiller le matin et en 10 minutes doit faire tout. C'est tout en 10 minutes, les 4 enfants, le mari, les téléphones, la préparation, les sandwichs, les calasses, les belles mots, voilà l'amour avec les enfants, tout. Et être une femme, vraiment la femme. Tant que la veille, c'est pas une femme qui est allée dormir tranquille avec un homme qui pouvait la prendre dans ses bras et l'aimer, et vraiment. Alors, ça a commencé par ça. Et en effet, ça a été très très clair pour moi que cette femme, elle est entourée des hommes. Les hommes, pour moi, c'est tout. C'est la famille, c'est ses frères, bien sûr, c'est son mari, c'est les voisines et c'est la société. C'est vraiment la société. Parce que la société patriarcale entoure ces femmes et étouffe leur voix. Et je voulais montrer comment ça peut être tellement naturaliste, genre, entre guillemets, c'est-à-dire quotidien, tous les jours, une femme assise veut tout simplement séparer de son mari, et comment les hommes arrivent et ils oppressent leur force, leur pouvoir, leur capacité. Et je vous raconte quand même une petite histoire qui résume un peu tout ça, parce que en Israël, quand on est sorti les films, c'était comme les réactions parmi les gens, c'était extraordinaire. Mais il y avait quelques journalistes, des hommes, qui ont réagi très très violemment devant cette scène et ce film. Et ils ont dit, ça c'est quand même, quand la femme est là et à s'asseoir en silence, baisse ta tête, belle, bénisse à ces hommes qui lui disent quoi faire, quoi mettre, quoi porter, comment sentir et comment vivre. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais quand elle commence à commencer à crier, c'est une femme, ils ont défini comme hystérique, psychopathe, pas normale, et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de douleur. Ça veut dire qu'ils ont vraiment raté quand même la vérité de la situation de ces femmes dans le monde entier, non seulement en Israël. C'est-à-dire, ils voulaient dire que quand une femme se trouve à Bénisse, devant un homme, alors c'est bien quand elle menace pas, quand elle ouvre, elle crie pas sa douleur ou elle parle pas de sa vérité, ça dérange personne, c'est bien. Vous êtes belle, vous êtes bien, alors on t'accepte. Mais quand elle crie, c'était très important pour moi de créer ce cri dans ce film. Parce que le cri, c'est la liberté de cette femme. La possibilité qu'elle puisse crier sa douleur et fumer les cigarettes aussi sans arrêt. Pour moi, c'est le cri pour et c'est la parole pour toutes ces femmes qui se trouvent dans le monde entier, qui n'arrivent pas toujours à crier leur douleur face à un homme qui l'empêche de vivre ce qu'elle veut vivre, sa liberté, l'amour, voilà ce qu'elle rêve, quoi.
On peut pas ouvrir la bouche avec toi, toujours des cris. À peine je dis quelque chose, tu me sautes dessus.
Là où ni rêve, ani lo kachat radichat lechem orach tamei aris avesotam et apesheli lo medaberet lo mitpaneket. Tu devrais être content qu'il y ait quelqu'un dans cette maison qui arrive à faire tout ce que je fais. Regarde Sandrine, elle travaille pas. Son mari travaille du matin au soir. Il rentre à 9h du soir et elle est là, Tehagda, les mains croisées pour qu'il la sorte au restaurant, Eliao. Et qu'est-ce que tu crois qu'elle a fait toute la journée? Oh alors, des amis, le coiffeur, du café. Et moi, qu'est-ce que j'ai moi? Même à l'intérieur d'un café, je sais pas de quoi ça a l'air.
Je te dis de ne pas y aller au café, moi. Vas-y tant que tu veux au café.
Avec qui, Eliao? Toute seule. Non. Ça ne peut pas marcher comme ça, Elia. Annie le cher, il traque à l'école à Haïm. Là. Il a dit Migdelo, je ferai mes valises et je disparaîtrai. Je ne resterai pas ici, Nia. Tu verras.
Tu me menaces. Tu te menaces toi-même, c'est tôt.
Pourquoi tu crois que Moïse a quitté ton frère, hein?
Ne mêle pas ma famille à cette histoire.
Pourquoi? J'ai des comptes à leur rendre. Yala.
Viviane, baisse la voix.
Père Patli, allez, ferme. Ferme les fenêtres, que le monde entier m'entende, voilà. Je n'ai marre de me taire. J'en ai assez de me taire.
Tu te tais, c'est moi qui me tais toujours et qui avale en silence.
Léo, tais-toi, je te dis.
Tu me dis de me taire dans ma maison, pour qui tu te prends?
Oui, je te dis tais-toi. Je te dis, tiens-toi, la mort de Mila, à 20 minutes pour 7-7. Va à Shabbat, elle te suit.
Tu crois que tu me fais peur? C'est entre toi et lui. Qu'est-ce que tu vas faire, hein?
Qu'est-ce que je vais faire? Voilà ce que je vais faire! Non, c'est ta mère, Nira, entra, c'est ta mère! Oh, Mila, Khadir, mais je serai remettre, c'est ta mère! Non! T'as dit, oh, Mila, Khadir, entra, mais je serai remettre! Écroule-toi! Mais bien, j'ai l'air, on t'a voulu partout, j'ai l'air! Écroule-toi!
תרגעי.
איפה האחים שלי עכשיו שיבואו? מי יבואו? יראו איפה אמא שלהם? איפה? איפה אבא שלי שיבוא? שיהיה אותי תעזב אותי? רק לפני שבוע מחה להם, רק לפני שבוע. עוד מעבר יום, יהיה מטומצם.
מה קרה? מה הצעקות האלה?
איזה מזבז עליך, תעזב אותי.
Cette histoire est très très importante pour moi. Elle représente beaucoup pour moi des femmes de mon enfance que j'ai vécues, que j'ai vues, que j'ai entendues, que voilà, qui m'ont entourée. La suite, c'est ça s'appelle le 7 jours. C'est la deuil, le deuil. C'est la suite parle de toute la famille, la grand famille, toutes les frères de Viviane. Un de ses frères meurt et toute la famille se réunissent pour 7 jours sans partir de même lieu. 7 jours, c'est une nuit. C'est la tradition. Et là, il se passe des choses, quoi. La valeur familiale monte encore plus haut. On monte un étape, là.
Dernière question, Ronnie Elkabetz. Votre mère a-t-elle vu le film ?
Elle a vu le film. Elle a vu le film. Elle n'a pas arrêté de pleurer pendant 3 jours. Au premier moment, elle était étouffée. Elle avait peur, beaucoup. Elle sentit qu'elle ne peut pas sortir et rencontrer les gens. Mais très très vite, les gens, le temps, le nombre des femmes qui ont venu envers elle pour lui dire... c'est mon histoire, Myriam, elle s'appelle Myriam, c'est mon histoire. Du coup, elle s'est sentie libérée de quelque chose et ça lui a donné d'une libération. Elle est devenue une autre femme, quoi. Ça lui a marqué, ce film, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, mon père n'a pas encore vu le film. On est un peu peur à lui montrer. Et comme il ne nous aide pas, c'est-à-dire qu'il ne veut pas jamais veiller les religieux, il ne veut pas aller au cinéma, on est toujours peur quand il ouvre la télé, peut-être il va tomber sur ça. Mais en même temps, je crois qu'il va s'amuser beaucoup parce qu'on fait beaucoup l'honneur aussi à lui aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de coupable dans ce film. C'est des sacrifiés de la vie, de mariage. On les aime tous, les deux. Ils le savent. Non, mais c'était une période très spéciale et très fragile aussi quand même en Israël pour mes parents, ma mère surtout.
Et toi, Eliaou? Qu'est-ce que j'ai de toi? Qu'est-ce que tu me donnes? Ça fait 10 ans que je te supplie de passer ton permis de conduire. 10 ans. 10 ans. Moi, j'ai pas une bonne vue. Lui, si. Il m'ignore. Moi, mes besoins. 10 ans. Quand? Jusqu'à quand, Emilio? Jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas faire quelque chose pour moi? Hein? Quand est-ce que tu m'as offert une simple fleur et t'es venu, tu m'as fait un baiser? Quand? Quand est-ce que tu t'es venu? Tu m'as dit, mais viens, j'ai une surprise pour toi. Viens, on va aller au restaurant, au cinéma. Quand, Eliam? Quand est-ce que tu m'as vu pleurer et t'es venu me consoler? Quand, Eliam? Quand est-ce que tu m'as dit merci? Merci, Viviane. Merci pour tout ce que tu me fais. Pour moi et pour nos enfants. Quand il y a... Quand... Oublie. J'ai déjà oublié. J'ai oublié, Eliaou. J'ai oublié. Il n'a pas de pitié, cet homme. Non. Il n'a pas de pitié.
Tu aurais préféré avoir un mari comme Victor? Qui joue tout son salaire dans une partie de cartes. Dommage que je ne sois pas un mari qui boit ou qui frappe. Peut-être qu'elle aurait apprécié ce qu'elle a entre les mains. Dis-lui ça, Donna. Dis-lui ça.
Je préférais que tu me frappes, Eliaou. Je préférais que tu me frappes, que tu me frappes, que tu me frappes. Et après que tu me prennes dans tes bras, plutôt que de me laisser comme ça.
Merci à Élodie Royer, Corinne Amar, Julien Rosa, Cédric Châtelus, Anne Kobilac, Didier Lagarde. Vous écoutez France Culture.